Qu'est-ce que tu choisis?
Ah ouais.
Là, c'est pour ça que j'ai dit choix, c'est pour ça que avant de choisir la collègue, je voudrais savoir un peu quelle est la question.
Alors, le jeu, c'est d'explorer le document à partir des cinq sens.
Ah, ok.
Ok. C'est joli cette boîte,
ça fait sept.
Ouais.
Ah, tu vois, ça va retourner, du coup, je sais.
À l'oreille des montagnes, carnet radiophonique des rencontres Pyrénées vivantes à Germes, chez Lily. Onzième épisode avec Romain Baudouin.
Approchez pour entendre ce qui vient d'arriver. Rien ne doit nous surprendre de la divinité. La 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 la. C'est tout ce que je sais, je n'ai pas les paroles. C'était une complainte aussi.
Ah,
c'était le prêtre qui passait devant la salle de bal. Et au lieu de s'arrêter de danser, ils avaient tous continué de danser. Alors, ils avaient chanté ça, les pauvres danseurs, qui dansaient continuellement, nuit et jour. Et ils dansaient toujours jusqu'à ce qu'ils sont tombés tous inanimés.
Punition.
Mais comme je ne la fais pas.
Ah oh, ouais. Oui.
C'était mon père
aussi. Oui. Si elle est venue avant, 10 ans avant, elle avait le Dieu qu'elle avait un répertoire de
jours. Ah, oui. Oh, lui, mon
père. Moi, tu peux déjà présenter ce document?
Ouais, on vient d'entendre Marguerite Pinsol, qui a été collectée en 1966 par le Musée des Arts et Traditions Populaires, c'est-à-dire Marie-Marguerite Pichot-Néandral et Claudie Marcel Dubois, deux ethnomusicologues fameuses qui ont traversé un peu toute la France et qui ont fait des missions, elles appelaient ça des missions, donc le Mission Land 1 en 1965, Mission Land 2 en 1966. Et donc, voilà, elles sont venues collecter les pratiques sonores communautaires des Landes, avec en toile de fond, si j'ai bien compris, la volonté de retrouver le dernier joueur de Boua, donc de Cornemuse des Landes. Je ne spoil pas la fin des deux missions 1 et 2 des ATP, mais elles ne l'ont pas trouvé. Mais par contre, elles ont quand même été de maison en maison pour ça, elles ont collecté des gens, des personnes. Et dont Marguerite Pinsol, qui est une chanteuse, une routinière, je dirais, comme ça, et qui chante cette chanson. Tu veux que je parle de la chanson?
On peut commencer le jeu, si tu
si
veux.
Si tu veux bien, ouais.
On peut commencer par Louis.
Louis, ah oui. parce que son mari s'appelait Louis Pinsol, c'est pour ça que je réagis. Au niveau de Louis, ben moi je qu'est-ce que j'entends là-dedans? J'entends plein de choses en fait qui bon évidemment c'est essentiel dans mon travail. Moi je suis essentiellement musicien. Je suis pas ethnomusicologue et je suis pas non plus spécialement chanteur. Donc je prête plus attention effectivement à l'événement sonore qu'à la façon de chanter ou je sais pas comment dire ça. Et là ce que j'aime bien c'est le bon, déjà, il y a l'aspect cassette, quoi, qui est quand même un peu un son lo-fi. À savoir qu'évidemment, c'est pas la cassette originale. Moi, j'ai récupéré des MP3 numérisés que j'ai remis sur des cassettes. Donc, je pense qu'il y a certainement de la perte de signal, mais on n'est pas non plus sur des musiques extrêmement compressables ou compressées. Donc, il y a quand même du détail. Et moi, ce qui m'intéresse quand j'écoute ces fonds sonores, en fait, c'est la recherche. J'en ai conclu que c'était la recherche de la déviance, en fait, c'est-à-dire l'envie de trouver des détails, des choses qui sont un peu hors du commun ou hors norme. hors norme actuelle. Voilà, parce que la norme de l'époque, je pense que pour la plupart des gens de cette époque-là, elle devait chanter extrêmement correctement. Pour moi, elle chante extrêmement correctement, même plus que correctement. Mais en tout cas, elle a une façon d'apprécier le chant qui est singulier à mon oreille. Voilà. Alors, c'est des gens, Marguerite Pinsol, j'ai pas son CV exact, mais c'est des gens qui avaient plutôt autour de 80 ans quand ils ont été collectés en 1966. Donc, ça veut dire qu'ils sont nés à la fin du 19e siècle, quoi. Donc, j'imagine, moi, en tout cas, qu'ils avaient ils ont grandi, ils ont évolué dans un environnement sonore très différent du nôtre. Et ça, c'est un peu mon dada, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un environnement sonore extrêmement normé, quoi. Donc, pour aller vite, on va dire binaire, tonal, compressé, métré, et puis formaté, avec des formats qui... voilà. Et donc, tout ce qui sort de là, évidemment, pour nos oreilles, c'est extrêmement perturbant ou gratifiant, selon comment on le pressent. Et je pense que, notamment, l'engouement qu'il y a... pour les musiques ethniques, extra-européennes et tout, à mon avis, je ne suis pas ethnomusicologue, mais j'ai la sensation qu'il y a cette recherche-là, un peu d'exotisme. On a la sensation que c'est quelque chose qu'on n'a pas, quoi, dans nos cultures. Et moi, j'ai la sensation que, en fait, quand on fouille un peu dans ces enregistrements anciens, alors pas forcément dans les enregistrements du revival, puisque c'était des gens qui étaient un peu plus, qui allaient au supermarché, c'était pas non plus ils vivaient pas dans des cabanes, quoi. Mais à cette époque-là, quand même, la lande de cette époque-là, c'était encore très, très, très roots. Et des gens que j'imagine assez, encore assez isolés, un peu protégés de cette musique de masse, quoi. Et donc, j'ai la sensation qu'ils ont une approche musicale que nous, on n'a pas, quoi. Et qu'on retrouve des fois dans les enregistrements des pygmées ou je sais pas quoi, des trucs qui font rêver les gens, quoi. Alors moi, je m'accroche à ça. Donc là-dedans, j'entends ce rapport un peu au temps, à la façon de faire. En plus, il est en français, ce qui n'est pas très commun dans cette collecte-là, parce que la plupart du temps, c'était plutôt dans le parler nug, donc le parler noir des Landes, là, qui est un dialecte du gascon, qui est lui-même un dialecte de l'occitan. Mais quand même, on entend cette langue-là à travers, dans le français. Alors là, c'est en français, mais on entend quand même, surtout le monsieur qui parle à la fin, là, il a un accent incroyable. Et je me rappelle de mon arrière-grand-père. Alors ma grand-mère, elle avait plutôt cette voix à elle, là, un français qui roulait les airs, comme ça, un peu rocailleux. Mais mon arrière-grand-père avait complètement cette façon de parler le français qu'avait le gars à la fin d'enregistrement, là, où t'as envie de lui dire, mais parle gascon, en fait, parce que là, si tu es en français, c'est hyper dur. Et nous, on avait même la sensation, parfois, avec ma soeur et mes cousins, qu'ils parlaient pas français. On ne comprenait pas, quoi. Et bon, déjà, je pense qu'il a reculé plus beaucoup. Et puis surtout, sa langue maternelle, à lui, c'était vraiment l'occitan. Donc, c'était... Et voilà, donc, je pense qu'il y a aussi une part d'intime, un peu, dans cet enregistrement-là. C'est des collègues qui ont été faites aux alentours du village... où habitaient mes grands-parents, et donc un peu, on va dire, le village familial de la famille du côté de mon père. Et donc j'y perçois une atmosphère que j'ai connue, alors plutôt moi dans les années 80, hein, quand j'étais gamin, jusqu'à dans les années 90. Mais donc il y a aussi, je pense, un peu une Madeleine de Proust, quoi, un truc un peu comme ça. Et puis juste pour dire quand même que ce que je trouve intéressant, et c'est par rapport à Louis toujours, c'est... Mais pas que, hein, c'est que aussi cette collecte, là où elle est intéressante, c'est que ce qu'elle raconte est intéressant, parce qu'en fait, elle fait référence à une bribe de chanson dont elle ne se rappelle plus, mais elle se rappelle de la situation, et elle se rappelle pourquoi le curé chantait ça. Donc ça s'appelle « Approchez-vous pour entendre ». Et en fait, elle raconte une histoire d'un bal populaire qui a mal tourné, c'est-à-dire que les danseurs ne s'arrêtent plus de danser, et ils dansent jusqu'à l'épuisement. Et donc le curé arrive pour les désenvoûter, quoi, enfin essayer de comprendre, et il leur fait chanter cette chanson. Mais même avec cette chanson, elle dit, ils ont dansé jusqu'à tomber inanimés. Donc l'action du curé n'a pas suffi à enlever l'envoûtement, et donc du coup il y a des gens qui tombent inanimés, voilà. Et du coup j'ai cherché un peu, moi, de mon côté. Ce genre d'histoire, et il se trouve que c'est assez connu, au moins au Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle les chorémanies, Il y a un livre d'ailleurs de Jean Tellet qui s'appelle « Entrer dans la danse », qui raconte ça à Strasbourg en 16e siècle, je ne sais plus la date exacte, où des gens se mettent comme ça à danser. Une femme qui sort dans la rue, qui dit « ça correspond à une période de famine aussi, tout ça, de peste, tout ça ». Et elle dit « Nous n'avons plus rien, alors dansons ». Et puis ils se mettent à danser. Et puis en fait, toute la ville se met à danser. Et il y a des morts, quoi. Voilà. Donc au début, ils envoient l'armée pour les arrêter, ça fait rien. Après, ils envoient des musiciens pour les faire danser, pour les aider, ça fait rien. Après, ils envoient les curés. Et puis ils finissent par envoyer les médecins de l'époque qui étudient ça, quoi. Donc il y a pas mal de textes sur 4 siècles à peu près, de moments comme ça. Ça s'appelle aussi la danse de Saint-Guy, je crois. Où il y a des gens qui se mettent à rentrer en transe, quoi, et puis qui ne s'arrêtent plus jusqu'à mourir, quoi. Et la dernière corémanie qui a été recensée, c'est à Madagascar, à la fin du 19e, genre en 1800, je ne sais plus combien, 1860 et quelques, à vérifier. Mais, et donc, ce que je me dis qui est un peu fou, c'est-à-dire que il y a, en 1966, donc 100 ans après la dernière corémanie officielle reconnue, quoi, on retrouve une trace dans une chanson comme ça d'une dame qui chante ça de façon, je vais pas dire anodine parce qu'elle raconte l'histoire un peu tragiquement, mais elle fait pas le lien, quoi, avec ce que je viens de raconter avant, quoi. Il y a pas de, je pense pas qu'il y ait un lien historique direct, mais en tout cas dans la culture populaire il y a encore cette trace de ce problème en fait qui a disparu mais qui a existé et qui a été documenté, quoi. C'est pas juste des récits, c'est carrément des enquêtes. Et alors, du coup, j'aime bien ça, parce que je me dis, en fait, c'est comme un livre d'histoire. C'est-à-dire que d'un seul coup, à travers une petite chanson comme ça, tu replonges dans une histoire énorme, quoi, qui a touché l'humanité. Et je pense que c'est surtout pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouve que c'est, pour moi, emblématique des collectages. C'est-à-dire qu'on y trouve bien ce qu'on veut, mais ceux qui cherchent, et c'est mon cas, ils trouvent des choses. On peut passer à côté, on aurait pu voir autre chose dans cette chanson. Moi, j'y vois ça, et du coup, ça me parle, quoi. C'est une charge symbolique qui est importante, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand je joue ça, et je le joue, c'est une des pièces que je peux jouer dans le concert, ben moi, je sais tout ça, quoi. Donc, quand je la joue, il y a un truc qui est chargé. C'est pas pareil que de juste reprendre ce morceau sans connaître tout ça. Et peut-être qu'il y a plein d'autres choses à connaître aussi, mais c'est sans fin. Mais en tout cas, la charge symbolique dans l'acte créateur, moi, m'importe beaucoup, quoi.
La vue, tu as parlé déjà un peu du contexte, ouais, du paysage.
Vue, bah, la vue, je ne peux pas que l'imaginer. Ce qui est très rigolo, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur ces collectes, je les ai récupérées à l'Institut Occitan. Elles étaient en vrac, elles n'avaient pas été ce qu'on appelle inventoriées. Et donc, je m'y suis collé, quoi. Donc, j'avais juste quelques traces d'enquête, quoi, et j'avais toutes les heures et les heures d'écoute, quoi. Et je me suis passionné pour ça, donc je l'ai faite, quoi, l'inventaire. Donc, j'étais à l'Institut Occitan, j'écoutais, j'ai quelques connaissances quand même dans le repérage des morceaux. Qu'est-ce qu'un congo, qu'est-ce qu'un rondo, quand ils disent ça, ça correspond à quoi. Bon, du coup, j'ai fait cet inventaire, quoi. Et bon, donc j'avais des gens, j'avais des noms, j'avais pas les situations vraiment, j'avais pas, voilà. Et puis il se trouve que plusieurs années plus tard, 3 ans après, donc en fait l'an dernier, je suis tombé sur un ethnomusicologue qui m'a dit que cette collecte, en fait, avait été, elle avait été inventoriée. Elle était sur un site internet qui s'appelle Didomena, de l'EHESS, là, et en fait, non seulement elle est inventoriée, mais il y a des photos. Donc en fait, je me suis tapé un boulot d'inventaire d'une collecte qui était déjà inventoriée, mais moi je le savais pas, parce qu'à l'Institut Occitan, il m'avait filé juste des CD, quoi. Ce qui est pas mal, parce qu'en fait, ça m'a permis quand même de la connaître, plus que si j'avais été juste pioché à droite, à gauche, quoi. Je me la suis appropriée avec ma... Et puis surtout, je l'ai inventoriée avec mon regard. Donc du coup, moi, les codes de mon inventaire, ils sont précis pour moi. Je sais aller chercher, tout ça. Donc il y a eu d'abord une phase où j'avais pas de visage, en fait. J'avais des gens, alors je sais même pas si je m'étais imaginé, parce qu'avec du recul, je pense que je m'étais imaginé des visages, mais j'y ai jamais pensé. Et puis un jour, mais c'était devenu familier. Marguerite Pinsol, tu vois, pour moi, elle est familière maintenant. Je la connais pas, hein, mais elle est familière. Et puis d'un seul coup, on te met un visage. Alors d'un seul coup, tu la vois, tu dis, ah putain, mais ah, je la voyais pas comme ça, quoi. Voilà. C'est comme quand tu vois une adaptation d'un roman en film, quoi. Et donc, la vue, ça serait ça. C'est-à-dire que la découvrir, en fait, après coup... comme un jeu, en fait. Ah ben voilà, ok, décrivez-nous Marguerite Pinsol, et puis après, ben, en fait, elle ressemble à ça, quoi. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça assez cool, parce que finalement, ce parcours par rapport à ses collègues, il est un peu atypique, quoi. parce que j'ai pas eu tous les éléments d'un coup, que je me suis... faut savoir quand même que cette collecte-là, pour nous, pour notre culture, et notamment pour ma famille, elle avait un aspect de Graal, quoi. C'est-à-dire qu'on savait que les ATP étaient venus collecter dans les villages autour de ma famille, qu'on n'y avait pas accès. Moi, je suis allé dans les années 2000 avec mon père au musée des ATP, et on est resté derrière les vitrines, quoi, ou devant, ça dépend comment on se place, comme dit mon père. Mais on ne pouvait pas rentrer parce qu'on n'avait pas d'agrément, quoi. Ce que je peux comprendre, parce qu'évidemment, si tous les Pékins de Gascogne viennent écouter les bandes, elles n'étaient pas numérisées aussi, donc évidemment, c'était un peu technique. Mais nous, on a vécu ça comme une injustice, quoi, parce que c'est des collègues d'État, donc ça appartient, pour moi, ça appartient à la culture, quoi, tu vois, l'oralité, quoi. Et là, c'est comme certains collecteurs chez nous, c'est comme s'ils bloquaient cette transmission, quoi. Mais ça a quand même créé un truc aussi très cool, c'est qu'on s'est imaginé plein de choses, parce qu'on avait vu des photos, des machins, parce qu'il y avait quelques bouts de cette collecte qui étaient dans l'exposition. Et notamment mon père qui s'est fantasmé un double joueur de flûte à trois trous qui je n'ai pas retrouvé dans les collectes. J'ai des traces. Lui, il a vu des photos, il m'a dit qu'il l'avait entendu, mais moi, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, il y a quelques bribes de cette collecte qui manquent pour l'instant, mais je pense que je peux les retrouver. Je sais comment faire pour les retrouver. Mais en tout cas, il y avait tout un fantasme, quoi. Et alors, du coup, on imaginait, comme c'est une des collectes les plus anciennes qu'on avait chez nous, que dedans, il n'y avait que des trucs fantastiques. Il y a des trucs fantastiques, mais pas que. Et donc, elle a aussi une valeur symbolique forte, cette collecte, parce qu'en fait, ce qui est un peu amusant pour l'anecdote, c'est que quand le MUCEM a été créé à Marseille, la collection des ATP est partie au MUCEM, si j'ai bien compris, et du coup, dans le déménagement, ils ont fini de numériser des choses, quoi, et notamment ces collectages. Et donc, nous, notre région, par exemple, l'Institut Occitan l'a su, et donc a récupéré à ce moment-là les CD, quoi, numérisés. Et ce qui est très rigolo, c'est que dans mon entourage proche, des musiciens pros gascons, je le redis, c'était le Graal. C'est-à-dire tout le monde rêvait un jour de pouvoir écouter ces collectages, qui étaient certainement les trucs les plus extraordinaires qu'on ait jamais joué et chanté. Et moi, quand je l'ai appris, elles étaient déjà rentrées en région depuis 2 ou 3 ans, quand j'ai appris qu'ils l'avaient, en fait, ça. Et moi, tout de suite, j'y suis allé, quoi. Et Alinois, qui m'ont dit que j'étais le seul depuis 4 ans qu'elles étaient là, alors que ça s'était su, moi, je ne l'avais pas su, à être venu les écouter, et depuis je suis le seul à y avoir été. C'est-à-dire que c'est comme je sais pas comment dire, c'est comme une recherche d'un truc perdu, puis finalement quand tu le retrouves, bon, en fait tout le monde s'en fout, alors que pendant longtemps c'était le truc absolument qu'il fallait écouter, voilà. Donc là maintenant il y en a qui s'en sont un peu plus emparés aussi, hein. Moi j'ai beaucoup travaillé, j'en ai passé, enfin bref, il y a des gens qui travaillent dessus maintenant aussi, et c'est bien, mais c'est cette sensation là de tant que c'est pas accessible, tu vois, ça a beaucoup de valeur, quoi, tu vois. Et puis maintenant que c'est accessible et que c'est là, ben en fait c'est des chanteurs, quoi, des chanteurs, des musiciens, certes avec des trucs plus anciens que ce qu'on a collecté, tu vois. Puis moi j'y entends beaucoup de choses très intéressantes, mais ça passionne pas les gens, en fait, tu vois.
Oui, et puis il y a une phonothécaire qui s'appelle Véronique Ginouves, qui travaille à la maison Méditerranée et Sciences de l'Homme à Aix, qui parle vraiment du statut des archives orales en comparaison à des sources écrites, à une bibliothèque. Elle, en tant que phonothécaire, elle voit bien qu'on n'est pas à égalité dans la valorisation des sources, des documents, et il y a un vrai travail aussi de valorisation à faire. C'est pas quelque chose d'évident pour les gens d'aller dans une phonothèque, c'est-à-dire comme une bibliothèque de sons, et de travailler à partir de ces sources-là. Donc il y a aussi le statut de l'archive en elle-même.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Oui, parce que tu vois, par exemple, si on prend l'exemple d'un livre fameux chez nous, qui est les collègues de Félix Arnaudin, là, par contre, la plupart des musiciens trad de chez nous, ils l'ont et ils s'y réfèrent. Beaucoup plus qu'à des collectes sonores, quoi. Qui sont pourtant, d'un certain point de vue, certainement plus riches en détails que les partitions d'Arnaudin, qui sont quand même assez succinctes, quoi. Alors, ça raconte autre chose, hein. C'est pour moi, c'est complémentaire, mais...
Là, on en vient au toucher. Ça me fait penser à ça aussi, le fait d'avoir un livre dans les mains, ouais. Quelque chose de tangible, de ouais. Matériel. Là, par rapport à donc, ce document, ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque du point de vue du toucher ?
Alors moi, là, par rapport au toucher, c'est pas évident, hein, comme question, mais le truc qui me vient assez spontanément, c'est la cassette, en fait. Parce que c'est, pour le coup, la cassette, dont je l'ai expliqué, en fait, moi, ces cassettes-là, j'ai remis sur des cassettes... des numérisations de collectage en MP3. Donc en fait, c'est pas tant pour l'aspect sonore et tout, enfin, un peu, mais c'est aussi pour l'aspect visuel, effectivement, par rapport au... Là, je parle de spectacle. Parce qu'en fait, je produis ces cassettes sur scène, Et je trouve que c'est une bonne alternative, tu vois, de c'est pas pareil que d'appuyer comme faisait hier Arnaut sur un iPad, tu vois, que de alors que c'est exactement la même chose en fait, hein, à l'arrivée c'est pas très différent, mais dans le geste c'est pas tout à fait pareil, notamment parce que moi je me rappelle mon père et mon oncle collecter avec ce genre de lecteur cassette. Ça, c'est un lecteur cassette qui est de ces époques-là, de la collecte, quoi. Et donc, ça ramène dans le toucher le fait de manipuler ces cassettes, et puis de devoir les rembobiner, et nanana, et puis bon, elles peuvent casser, etc. Il y a un truc par rapport au geste et au toucher qui est assez différent, quand même, tu vois, que de juste les. Soit s'y référer et pas de les faire entendre, ou soit de les diffuser dans un ordinateur. Donc moi, chaque fois que je veux jouer avec ces cassettes, en tout cas dans le cadre de ce spectacle, parce que quand je travaille chez moi, en fait, pour ne pas les user non plus et tout ça, des fois, je le travaille en numérique pour pouvoir les répéter plein de fois, parce que je les ai apprises, en fait, pour pouvoir jouer avec elles, pour les suivre. Mais ça veut dire que ben, chaque fois que je veux démarrer un morceau ou tout ça, je dois d'abord passer par le fait de prendre ma cassette, la choisir, la mettre, vérifier qu'elle est rembobinée, tatatitatata, bon bref. Donc il y a un truc de manipulation que je trouve assez chouette et qui pour moi est lié à ces collectes, parce qu'en fait, les mecs, ils avaient des cassettes. Alors, les cassettes, c'est plutôt années 80, 90, avant, ils étaient sur des bobines, et bien avant encore sur d'autres types de supports. Donc, c'est quand même moins, c'était un luxe pour eux quand même d'avoir des cassettes, parce que c'était quand même moins cher. Le magnéto cassette coûtait cher pour l'époque, mais la cassette n'était pas très chère par rapport à la bande. Donc, c'était une révolution quand même, et puis c'était beaucoup plus maniable, transportable, et puis le micro était intégré, souvent. Donc il y avait un truc de... Nous, aujourd'hui, tout est numérique, donc on a plus du tout ce rapport-là, quoi, tu vois, même à la valeur de la bande, hein, parce que malgré tout, les cassettes, tu vois, quand je parle de numérisation, je parle pour certaines collègues de famille, on est inquiet, tu vois, de leur sauvegarde et tout, parce qu'en fait, ça s'abîme, quoi. Alors le numérique aussi, hein, assez faille, hein, c'est pas non plus à vitam aeternam, mais bon, il y a quand même un principe de sauvegarde qui est plus facile à faire et qui peut se multiplier, et tu peux toujours imaginer qu'il reste quelque part une sauvegarde qui n'a pas été détruite. Les cassettes, et puis il y a un rapport au temps, c'est-à-dire qu'il faut tourner ta cassette, tu vois, voilà, donc alors, les bandes, c'était, je sais plus, 18 minutes ou je sais pas combien de temps. Une cassette, ça allait jusqu'à 45 minutes, il me semble qu'il y a des cassettes de 90 minutes, donc 45 minutes, c'est déjà pas mal, mais quand même, il faut penser, tu vois, à tourner ton truc. Donc là aussi, c'est un rapport au temps et à la collecte, je pense, qui est différent que de juste appuyer aujourd'hui sur un zoom et puis de le laisser défiler. Et puis si ça dure, si le mec parle. Quand je parlais des collectes de collecteurs qu'on faisait, là, je disais qu'on avait collecté mon oncle, par exemple, ça durait 9 heures, c'était sans fin. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, c'est numérique et en fait, bon, on l'a laissé parler, c'était hyper intéressant. Alors le problème, c'est qu'après, tu as 9 heures de collecte, alors qu'est-ce que tu en fais, tu vois? C'est toujours pareil. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est pas le tout de récolter de la mémoire. Si le numérique, il a cet avantage-là de l'efficacité, quoi, et puis de la simplicité. Il a l'inconvénient de ne pas trier parce que tu trieras plus tard, quoi. À part que plus tard, bon, ben, en fait, le temps que tu paies, bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est le fait d'accumuler comme ça du savoir sur des disques durs, à un moment donné, tu n'as plus le temps physique de le traiter, et donc du coup, ça revient quasiment au même que de ne pas l'avoir enregistré. Parce que du coup, tu n'y vas pas, quoi. Donc, ouais.
Après, c'est aussi un prétexte à la rencontre et à la disponibilité. C'est-à-dire, il y a aussi l'expérience du collectage lui-même, qui est que tu vas aller voir ton oncle, tu vas prendre ce temps, te rendre disponible pendant 9 heures, ouais, à l'écouter, donc il y a un espace. Et quelque part, on se dit finalement, est-ce que c'est le document le plus important réécouter? Est-ce que c'est pas ce moment-là qui est assez hors norme aussi? Et ce prétexte de la production d'un document qui va faire qu'on va se rendre disponible à cet échange et à cette écoute. En tout cas, moi je le vois aussi un peu comme ça.
Non, mais t'as complètement raison. Si je prends l'exemple de cette collecte-là, de collecteur, là. Pour moi, elle est spécifique parce que je redis rapidement le contexte. On a réédité des vinyles du Revival, qu'on est en train de le faire, là, on va en faire d'autres. Et les premiers par lesquels on a commencé, c'est les disques sur lesquels jouaient nos pères, donc qui s'appelle un groupe qui s'appelait Canicule, qui chez nous a été très important. Et donc, pour ne pas le sortir comme ça, on s'est dit, ben, on va leur faire raconter quand même un peu comment ils ont enregistré ça, dans quelles conditions et tout. Et donc, on a été voir les trois rescapés de cette histoire-là, donc mon père, mon oncle et Joan Francis Disney. Et on a fait comme on fait là, c'est-à-dire c'est plus un entretien que vraiment une collecte, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, toi, tu rebondis, tu me racontes des trucs, on raccroche, moi, je rebondis. Ça s'est fait comme ça. Moi, je le voulais comme ça pour que ce soit un peu dynamique aussi, puis tu vois, et puis les aider un peu à... Parce que moi, je l'ai vécu quand même, j'étais petit, puis je connais cette histoire assez bien, et j'ai mes propres représentations, et je voulais les confronter à ça aussi. Par moment, leur dire, attends, mais tu dis ça, mais moi, dans ma tête, c'était pas tout à fait ça. Dis, ah oui, alors soit ils me disaient, mais non, mais t'étais trop petit, tu t'en rappelles pas. Ou alors, ah oui, t'as raison, non, ça c'est pas. Enfin, bon, là. Donc il y avait ce truc d'entretien. Et là où je voulais te rejoindre, et que moi, je suis trouvé passionnant, c'est que mon oncle, tu vois, il a une dimension ethnomusicologue, lui, tu vois. Il a toujours voulu voilà, écrire des choses, classer, comprendre, trouver des véracités sur notre identité, le machin. Donc, un truc assez scientifique et tout. Donc, lui, quand on arrivait, il savait qu'on venait pour ça. Il avait sorti tous les vieux documents. Donc, il avait les affiches de l'époque, toutes les dates de concerts, les machins. Il a été chercher les photos, rien. Donc, si tu veux, il a fait un truc hyper exhaustif en partant du premier jour jusqu'au dernier jour avec tous les détails, les dates. Hein. Donc, ça a duré 9 heures, tu veux. C'était interminable de détails, quoi. Et bon, on a été voir Joan Frances. Lui, il nous a pas parlé de factuel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est parce qu'on parlait hier de si tu viens pas au même moment où c'est des points de vue croisés quoi d'une époque, ils ont pas le même point de vue quoi, tu vois. Et quand tu interviews les gens sur le même moment, tu vois, après, ils retiennent pas les mêmes choses. Joan Frances, c'était la création musicale. Pourquoi ils ont fait ça, quelles étaient leurs sources, pourquoi le il avait pas préparé, c'était plus, tu vois, il parlait des chansons, pourquoi il a choisi ce répertoire. Nan, nan, nan. Bon, donc pas du tout, il a pas parlé de musique, c'était que factuel, quoi, tu vois, Joan Frances, donc vraiment plutôt le scientifique ethnomusicologue qui cherche pas trop le truc artistique, mais Joan Frances, c'était quasiment que de l'artistique, de la sensibilité, son rapport à la langue, son, hein. Ça a duré, je crois, ça a duré 4-5 heures quand même, mais c'était plus, je sais pas comment dire, il y avait un truc plus poétique et sensible, et mon père, qui a pas que des très bons souvenirs de cette période, ça aurait pu être fini en une demi-heure. Et lui, c'était, oh, j'ai rencontré, bon, il y avait mon frère, il connaissait un gars, tu vois. Et puis voilà, quoi. Et puis vraiment, 20 minutes après, il avait fini, quoi, tu vois. Et c'est moi qui lui dis, mais attends, tu vas un peu vite, là. Tu passes de coiffeur à joueur de cornemuse, mais ça, c'est pas évident. Oui, non, mais ça, c'est parce que j'avais rencontré Cachetoun. Hein. Je lui dis, mais comment ça, c'est qui Cachetoun? Bah, Cachetoun, c'est qui c'est? Je lui dis, d'accord, mais je sais qui c'est, mais par rapport à toi, tu vois. Et là, en fait, je retrouvais leur personnalité. Les connaissant très bien, les trois, à travers, c'est pour ça que je rejoins ton idée de rencontre, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais la sensation de les retrouver tels qu'ils sont aujourd'hui. Et ils racontaient pas la même histoire. Alors évidemment, quand tu mets les trois réunis, finalement, mon père, ça a duré 4 heures parce qu'on l'a titillé. Et je pense qu'avoir leurs trois points de vue sur cette histoire donne une espèce de réalité augmentée, alors qui est certainement pas la réalité qu'ils ont vécue, mais qui est quand même un point de vue plus objectif avec trois regards très différents d'une même situation. Et du coup, c'est cette histoire de rencontre que tu disais là, c'est-à-dire que c'était pas du tout les mêmes mots. Tu vois, mon père, c'était à la table de la cuisine, mon oncle, il avait les archives sur la table, la salle à manger, avec tout étalé, il avait prévu les sièges et tout. Joan Frances, c'était sur un canapé, devant sa baie vitrée, on a mangé, on a bu un coup, enfin voilà. Et ça raconte les personnes, en fait, c'est ce que tu dis. Ça, c'est super. Et on prend pas ce temps-là en dehors de ça, parce qu'en fait, comment on fait là, en fait, tout de suite, là. C'est pas du tout pareil que de discuter autour d'une table quand t'as des micros, un enjeu, je sais pas, même si on l'oublie ou non.
En tout cas, pour moi, c'est un temps de disponibilité totale. Donc par rapport à celui ou celle qui écoute, mm-hmm. Donc ça crée une écoute, ouais. Donc ça crée une autre forme de parole qui est en train de se faire et une réflexion en train de se faire. Donc tout le monde est très concentré sur cette réflexion. Mm. En train de, voilà, ouais. De se fabriquer, quoi. Et on peut aller vers l'odorat et le goût.
Ouais. L'odorat, je sais pas, j'hésite entre les l'odeur que t'as dans les vieux bouquins, quoi, un peu. Je sais pas quoi, les dus, peut-être... l'odeur du papier qui vieillit, quoi, avec la poussière et tout ça, même si en fait c'est des sources sonores, mais il y a quand même hier ça a été évoqué ou avant-hier, ce côté un peu fantomatique, quoi, tu vois, un peu grimoire magique ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça de vieux trucs que tu ouvres et puis tu découvres dedans des choses. Donc en odeur, j'ai pas grand chose à part ça, peut-être l'odeur de quand même Moi, là, actuellement, je l'ai de temps en temps, cette odeur. J'ai appris que c'était l'ozone qui faisait ça. C'est-à-dire, c'est dans les Landes, quand il faisait très, 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 très chaud, parce que, bon, là, évidemment, là, ça brûle, il fait très chaud et tout ça, mais je me rappelle qu'il y avait la cagne, quoi, quand on était gamin, que, un peu comme ça se faisait dans les pays plus du sud, genre l'Espagne, le Portugal, où, en fait, entre 2h et 4h, tout est fermé, parce que, de toute façon, les gens dorment, quoi. Il fait trop chaud. Et dans les Landes, quand on était gamin, il y avait ça, il y avait ce moment-là de la journée. On se levait tôt, en fait, hein, on se levait assez tôt, parce qu'en fait, ça se jouait le matin, quoi. Après, à partir de 11h jusqu'à 17h, c'était quasiment invivable, quoi, de chaleur, quoi. Alors, je sais pas, en fait, je sais pas jusqu'à quel point, si tu veux, aujourd'hui, ces chaleurs sont équivalentes ou pas. Enfin, en tout cas, il y a un truc comme ça de l'espace-temps. Qui fait que j'avais la sensation qu'il y avait toute une partie de la journée qui était arrêtée. Alors, il y en a qui regardaient le Tour de France. Nous, je me rappelle qu'on dormait, on faisait des jeux à l'intérieur, mais tout était fermé, les volets, tu vois, il y avait un truc comme ça. Où c'était presque un moment de nuit en journée, tu vois. Et puis, à 17h, là, ça ressortait, et puis ça, jusqu'à 22, 23h, ça jouait. Alors, par rapport à l'odorat, du coup, il y avait des moments où il y avait la pluie qui tombait, et en fait, sur le sol chaud, il y avait une odeur hyper particulière qui existait, que j'ai connue chez moi aussi sur la côte et dans la forêt des Landes. Et cette odeur-là que je ne peux pas décrire, je dirais un peu comme du chlore, mais ce n'est pas du chlore. En fait, j'ai appris après que c'était de l'ozone. C'est, la pluie, en tombant au sol, se transforme, le O2 se transforme en O3, qui est de l'ozone. Et cette odeur-là que tu sens, c'est ça. Donc j'ai cette odeur-là un peu en tête. Et aussi ce truc-là du passé, donc pas de la poussière, mais c'est peut-être des champignons, quoi, je ne sais pas comment on dit. Il y a ça. Et le goût, ça serait la pintade, le poulet, la piperade, parce que c'était c'est ce qu'on mangeait, quoi. La tourtière aussi qui était faite maison. Donc avec ces grandes préparations de pâtes, là, il y avait la Lucette, la voisine de ma mamie, qui savait encore préparer ça avec elle. Donc tu pars d'une boule de pâtes, là, puis tu l'étales sur une grande table avec un drap. Un peu comme les... ça pourrait presque ressembler à des préparations marocaines, tu vois, à part que c'est pas du beurre rance ou du miel, c'est du beurre et de l'armagnac, quoi. Et donc là, c'est une couche de beurre, une couche d'armagnac, et après tu réétires, et puis ça finit par faire une espèce de pâte feuilletée, mais extrêmement fine, et sucrée. Et c'était une préparation de ouf, hein. C'est très, 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 très technique à faire. Je pense que c'est un savoir qui s'est un peu perdu, il y en a qui le font encore, hein, des pâtissiers, mais dans les familles, ça s'est perdu, parce que c'était... Enfin, je veux dire, celle-là, pour le coup, la ménagère, elle y passait. Je dis la ménagère parce que j'ai jamais vu un homme le faire, hein. C'est pas par sexisme que je dis ça, mais... Je pense que quand elle se mettait à faire ça, bon, elle en faisait plusieurs, mais ça lui prenait un temps fou, quoi. Il y avait un rapport au temps, tu vois, dans la cuisine, qui était le dimanche midi chez mes grands-parents. La maison familiale était adossée au presbytère, et donc le curé vivait là avec sa bonne, la bonne du curé. Et le dimanche midi, tous les dimanches midi, il venait manger avec nous. Donc il y avait la place, donc il y avait la famille Baudouin, là. Donc en fonction de qui était là. Mais quoi qu'il arrive, même s'il y avait que mon arrière-grand-père et ma grand-mère, puisqu'ils vivaient tous les deux là, quoi qu'il arrive, le curé venait manger le dimanche midi. Et c'était toujours pintade, piperade, tous les dimanches midi. Et c'est rigolo de te dire qu'on mangeait avec le curé, quoi. Comme, tu vois, c'était fou, quoi. Et mon arrière-grand-père était sonneur de cloche. Et c'était... Ouais, il y avait un rapport à la religion, hein, aussi, quand même, qui était assez fort, hein, à cette époque-là. En tout cas, chez nous, dans notre famille, là, des deux côtés. Ma mère est d'Ardèche, et aussi, c'était assez religieux, mais du côté de mon père, on est tous diplômés, on a tout du départ. Moi, j'ai pas été enfant de cœur, j'y ai échappé. Mais autrement, on a tous les grades, hein, on a été... moi, s'il y a un paradis, normalement, je suis assez... Au niveau CV, je suis plutôt pas mal, quoi. Après, j'ai fait des conneries, mais je pense que quand même, ça pourra me protéger. Mais donc, ce rapport-là au repas de famille, voilà, c'est ça que je voulais dire, plus que d'un plat particulier, quoique la pintade, quand même, et la piperade et la tourtière. Mais ce moment de repas de famille, quoi, là où ça, alors là, ça jasait sur le village, quoi. C'était ça, c'était des discussions des alentours. Mais le curé faisait partie de la famille, quoi. Il était là, déjà la maison était commune, quoi. Enfin, on avait deux entrées différentes, mais c'était le même bâtiment. aujourd'hui, je serais pas très... Moi, j'inviterais pas un cure à ma table, par exemple, tu vois. Mais c'était comme ça.
Pour revenir à ce document qu'on a entendu tout à l'heure, quel écho peut-il avoir, selon toi, pour aujourd'hui, pour d'autres gens ailleurs et pour plus tard?
Bah, si on prend ce document précisément, pour moi, c'est assez évident, même si il faudrait pouvoir l'expliquer, mais c'est en rapport à des pandémies, par exemple. Parce que là, la corémanie, si tu veux, c'était pandémique. C'est-à-dire, ça touchait une personne qui la transmettait, et puis d'un seul coup, en l'espace de quelques jours, toute une communauté était touchée, et ça allait jusqu'à la mort, quoi. Et donc, ils avaient un rapport, en fait, je pense, à la mort et à la transmission, très différent de nous, qui avons été touchés, là, par une pandémie mondiale. Alors, quand je dis nous, c'est nous, les Européens, hein, parce que Ebola et tout ça, c'est des pandémies. On n'en parle pas, parce qu'on s'en fout, ça ne nous touche pas, mais ça existe toujours, quoi, les pandémies, quoi. C'est juste que là, nous, on a été touchés, donc ça devient important, parce que c'est quand même le monde civilisé qui a été touché, mais ça existe toujours. Et ça nous ramène, je trouve, à une espèce de réalité, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, tu vois, en fait, il y a des petits éléments qui peuvent nous détruire et qu'on n'est pas tout puissant, quoi. Alors, il y a ça, quoi, ce rapport à la... l'oralité, c'est-à-dire la transmission par l'oralité, que en fait les pandémies c'est pas nouveau, quoi, tu vois, et que et des choses inexplicables, parce que ces corémanies, comme il n'y en a pas eu depuis longtemps, on les a pas réétudiées avec le rapport scientifique aujourd'hui qu'on a, mais à l'époque les dernières corémanies n'ont toujours pas d'explication, tu vois. Quand je parle de Madagascar en 1860, là, on peut imaginer qu'il y avait quand même des gens sérieux qui ont été cherchés, et à l'époque, ils n'ont pas trouvé, tu vois. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on trouverait, mais en tout cas, voilà, il y a aussi ce rapport-là, quoi, à la science, à la médecine, tu vois, et puis, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait une nouvelle. Celle qu'elle chante, elle, précisément, j'ai pas de date, je sais pas de quoi elle parle, hein. Est-ce que c'est arrivé dans les Landes, ça, tu vois, ou est-ce qu'elle raconte une pandémie, est-ce que c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge et qui se transmet, elle raconte ça. Elle, quand elle t'en parle, elle te dit... Elle te le parle au présent, quoi. Elle te dit... Et le curé... Enfin, t'as l'impression qu'elle y était. Tu vois ? Ah ben oui, il a chanté, et puis ils sont tous tombés inanimés, quoi. Alors après, à la fin de l'enregistrement, t'entends qu'elle dit que c'est sa mère qui lui chantait cette chanson. Et dans l'écrit que j'ai trouvé après sur Dinoména, parce qu'en fait, il y avait les carnets de notes aussi, voilà, je vais te dire ça, mais il n'y avait pas que les photos, il y a aussi tous les carnets de notes, tu vois. Et dans les carnets de notes, il y a plein de détails qui ne sont pas dans la collecte, quoi, qui sont écrits, tu vois. Notamment leurs adresses et tout, enfin, tu vois, c'est vachement intéressant. Et dedans, dans le carnet de notes, elle rajoute qu'elle tient ça de sa grand-mère et de sa mère. Donc peut-être qu'elle en parle comme un truc un peu présent, mais en fait, c'était sa mère qui lui chantait ça, qui était elle-même ne chantait pas. Alors jusqu'où ça remonte, je sais pas, j'ai pas de date, tu vois. Mais ou alors est-ce que vraiment ça s'est passé et on en a pas parlé, tu vois, ou peu. Un des trucs un peu singuliers qui arrive sur cette collecte, c'est que il y a un gars qui s'appelle Loupé Sicotte, qui est un joueur de vielle, qui est collecté, machin, qui en fait sur la collecte s'appelle François, Pierre Carabosse. Et en fait, quand lui parle, moi j'entends Pierre Carabosse. Mais c'est écrit Pierre Carabosse. Et puis en fait, quand tu regardes sur les écrits des manuscrits, elle marque Pierre Carabosse. Bon, c'est un peu de détails, c'est une lettre près. Ceci dit, je rentre donc d'une résidence à Bernos-Bolac, un petit village des Landes, une résidence que je faisais avec les nuits atypiques, sur cette collecte-là. Et en rentrant, je passe par le village de ma famille qui est juste à côté. Et je veux aller sur la tombe de mes aïeuls, quoi. J'y avais pas été depuis plusieurs années. Et puis je cherche la tombe de Marie Tasté, donc la femme de mon arrière-grand-père, Gaston Tasté. Et je ne la trouve pas avec mon grand-père, avec mes grands-parents. Et donc j'appelle mon père, j'étais dans le cimetière, je lui dis, mais j'ai papa et tout, mais je ne trouve pas la tombe de l'arrière-grand-mère, elle n'est pas enterrée là. Il me dit, si, elle est là, mais elle est à son nom de jeune fille, quoi. Et en fait, elle s'appelle Marie Carabosse. Et là, moi, je me dis, putain, elle s'appelle Marie Carabosse. Je lui dis, mais attends, c'est marrant et tout. Je suis en train de travailler sur un jour de vielle dans ses collègues qui s'appellent Pierre Carabosse. Pierre Carabosse, enregistré du côté de Luxeuil. Putain, je me dis, c'est marrant, il a le même nom de famille que ben, finalement, mon arrière-grand-mère, quoi. Et là, tu vois, alors c'est le truc un peu du fantasme, quoi. Je me dis, putain, mais ça se trouve, ils sont liés, tout ça, tu vois. Alors, des Carabosse dans les Landes, il y en a pas mal, hein, mais quand même. Et en fait, je commence à remonter l'arbre généalogique. Donc, tu vois, je vais... Alors là, pareil, le numérique super, parce qu'avant il fallait aller dans les... Là tu peux, sur des recherches assez simples, tu peux quand même aller assez loin déjà sur internet, tu vois. Et donc j'ai remonté la piste de Pierre Garabos et aussi de mon arrière-grand-mère. Et en fait Pierre Garabos, enregistré à Luxeuil, en fait est d'une famille qui vient du village de ma grand-mère. Donc là je me dis, ah ouais, ils sont du même village et tout. Et en fait il y a plusieurs familles Garabos dans ce village. Et avec Thomas, là, mon cousin, on est remonté jusqu'à la Révolution française. Et pour l'instant, on n'a pas connecté les deux filiations. Ils sont du même quartier, même truc, mais ils sont certainement cousins, mais on n'a pas réussi encore à remonter. Et là, maintenant, il faudrait que j'aille dans les archives physiques, quoi. Mais derrière, c'est quoi cette espèce de fantasme-là? C'est de me dire que ça se trouve, j'ai... je suis en train d'écouter un arrière grand cousin ou grand oncle à moi, quoi. Alors évidemment, on est tous issus du même être vivant, donc on est tous cousins, quelque part, quoi. Mais c'est un... Je sais pas comment dire. Pour moi, ça m'anime, en fait. Tu vois, ça m'anime, quoi. Il y a un... En tout cas, depuis que je sais ça, je ne l'écoute plus pareil, quoi, tu vois. Parce que la charge symbolique n'est pas la même. Et ça se trouve, c'est pas du tout mon cousin. Mais comme je me suis fait à l'idée que peut-être c'était mon grand cousin, il y a un truc en moi qui dit, putain, c'est quand même incroyable, j'ai écouté ce mec-là pendant 2 ans, et ça se trouve, il est de ma famille, quoi. Enfin, de ma famille, tu vois. Alors là... Mais c'est ça, en fait, que je trouve intéressant, et que, alors, pour rejoindre l'histoire de qu'est-ce que... Comment on peut se saisir de ça aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on peut transmettre? Ben, par exemple, c'est cette histoire-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu cherches et tu trouves. Je cherche, donc je suis en train de trouver une filiation avec, bon, peut-être absurde, quoi, mais moi, ça m'anime, quoi, tu vois. Et en tant qu'artiste, je trouve ça super, en fait, parce que ça charge. C'est hyper simple pour moi de trouver de la valeur, en fait, aux choses en faisant ça. Et que c'est ce que je racontais un peu hier quand on parlait d'autorisation. Il y a des moments où, comme pour moi, c'est un peu viscéral, tu vois, et que ça m'anime et tout. Il y a des moments où. Ouais, je donne pas des autorisations, mais il y a une partie de moi qui me dit ah, non, c'est pas possible, c'est pas comme ça et tout, parce qu'on a une partie conservatrice en fait, tu vois, et que c'est si, j'ai l'impression quand même que ces trucs identitaires, il faut pas laisser ces questions aux fachos, surtout pas les laisser aux fachos, mais quand même, il faut quand même s'apercevoir que c'est quand même des choses qui sont plutôt, tu vois, de l'ordre du conservatisme que de je sais pas moi, du hier on m'a dit liberté, bah oui, je pourrais répondre respect, tu vois, enfin bon, c'est sans fin quoi ces trucs-là. Et en grandissant, il y a un truc en moi, tu vois, même politique, qui est pas évident quoi, qui est vraiment qui je suis toujours un peu sur le fil avec ça quoi, parce que je me dis mais ça sert à quoi d'aller chercher ce ancêtre commun avec ce joueur de vielle, tu vois, quelque part on s'en fout quoi, tu vois, parce qu'au début je l'ai pas sélectionné pour ça, je l'ai sélectionné parce que j'aimais bien son jeu quoi, mais après tu dis putain, t'imagines si t'es ton arrière, tu vois. Alors c'est peut-être humain ça, je sais pas, c'est peut-être lié à notre rapport au temps, à la... On avait une discussion hier sur la transmission, la génétique et tout ça, puis tu vois, le fait qu'il y a une partie de nous qui vit aussi pour transmettre, quoi, tu vois, et se dire, ah putain, la vielle et tout, ça, chez les Baudouins, ça remonte à hyper... Enfin bon, je sais pas, c'est un peu con, et je sais pas des idées très claires par rapport à ça, mais en tout cas, ça m'anime.
Pour finir, est-ce que tu pourrais nous faire une offrande musicale pour ce carnet radiophonique? Alors...
Ah ouais, alors j'ai pas ma vielle.
Improviser, t'as pas ta vielle. Comme une sorte
faire,
de.
Je peux vous faire écouter une autre collègue peut-être ou. C'est dommage, j'aurais dû prendre mon instrument, j'aurais dû prendre ma vielle, je l'ai pas avec moi quoi. Est-ce que je peux aller chercher un outil?
Ah bah oui. Même ta vielle si tu veux. Mais...
Ouais, ma vielle.
Ah, t'es installé.
Ma vielle. Ouais. Ah oui. Je sais pas où elle en est, elle est dans sa housse. Sinon, je vais juste chercher, mais est-ce que ça risque d'être un peu technique quand même? Ouais.
C'est quoi?
Non, parce que j'ai reconstitué une ronde sur les collègues.
Ah, et ben sinon on va dehors.
Il faudrait aller dehors.
Pour l'entendre. Ouais, on fait ça ?
On fait ça.
Allez, on sort. Ok.
Donc en fait, dans les collectages, notamment photographiques, que j'ai trouvés, il y a un gars qui s'appelle Nano, qui est un landais quoi, qu'on voit en fait fabriquer, on le voit sur les photos, fabriquer une rombe. Donc la rombe, c'est quand même un instrument qui a été peu collecté en France et en Europe, et elle a été collectée par les ATP en 57 au Pays Basque, avec quasiment le même type de rombe, et qui, c'est des rombes qu'on... Alors sur celle du Pays Basque, qui appartient à un curé, il y a même des peintures rupestres dessus, donc fausses peintures rupestres, mais dans la même esthétique que les peintures rupestres. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont retrouvé dans les grottes paléolithiques de chez nous des rombes qui étaient exactement avec le même genre de symbolique et la même forme. Donc ça veut dire que là, ça remonte à des choses très anciennes, et on pensait pas retrouver ça en Europe. Et en fait, dans les collectes du sud-ouest de la France, dans les années 50, dans les ATP, on retrouvait cette rombe-là au Pays Basque chez un curé, qui savait encore en jouer, Et ce gars-là, Léonce Nano, il s'appelle, qui dit que lui, il en a vu quand il était gamin, et il sait toujours les faire. Et il en fabrique une, en fait. Donc on voit toute la fabrication. Et évidemment, cette rombe, elle est classée maintenant au Mucem, donc moi, j'y ai pas accès. Et puis surtout, ce qui est très, très bizarre, alors peut-être que ça fait partie des collectes manquantes, elle n'est pas enregistrée. Donc tu les vois avec leur micro et tout ça, tu vois les photos du moment, mais il n'y a pas l'enregistrement sonore. On a l'enregistrement sonore de la rombe du Pays Basque qui a été piquée par les ATP ou achetée, je ne sais pas, parce qu'ils achetaient les instruments, enregistrée dans un studio à Paris. Mais celle des Landes, elle n'est pas enregistrée. Donc moi, du coup, par photo, je l'ai reconstituée et je la joue, je la fais sonner, quoi. Donc ça se trouve, ça ne sonnait pas du tout comme ça, mais c'est réentendre, si tu veux, quelque chose qui avait complètement arrêté de sonner, quoi. Et donc j'ai essayé de la reproduire le plus fidèlement possible que je pouvais avec un bois de pin. Il explique un peu comment il faisait. Et donc c'est ça que je peux essayer de vous faire entendre. C'est un truc un peu inédit et inouï, quoi. Non, je disais que du coup je me suis un peu penché sur ces histoires de rombes là, et notamment d'essayer de comprendre un peu pourquoi en fait on retrouvait ça là dans les greniers des Basques et des Béarnais et qu'on retrouvait ça nulle part ailleurs, alors que c'est des objets sonores extrêmement anciens. Et en lisant là-dessus, j'ai lu, en tout cas pour les communautés, notamment en Afrique, qui les utilisent encore aujourd'hui, que c'était toujours lié à l'éloignement du mauvais œil, quoi, du mal. Alors le mal, ça peut être la chance, ça peut être aussi les animaux sauvages, quoi, tu vois, faire peur, quoi, voilà. Et en fait, le principe de créer un cercle autour de soi, protecteur. Et en tout cas pour la culture landaise, la culture basque je connais un peu moins, mais la culture landaise, notamment de cette époque-là, était encore très animiste. Les gens s'adressent pas à... ils étaient très, très catholiques, hein, mais ils s'adressent. Il y avait encore des résurgences comme ça de rites païens, quoi, des choses, tu vois, le sibesab pour faire les hanches, où tu charges ton hanche pendant que tu l'as, sibesab tête d'éclab, sibesab pète d'anier, tu vois, pour la charger symboliquement, pas symboliquement, au niveau énergétique, pour qu'elle sonne mieux, quoi, tu vois. Et j'en ai retrouvé pas mal des trucs comme ça. Et la rombe ferait partie. Alors là aussi, je m'avance à un terrain un peu inconnu, mais il ferait partie de ces trucs-là qui restent encore. Donc je trouve ça intéressant, quoi, de t'apercevoir. C'est un peu comme l'histoire de tout à l'heure de la Corémanie, quoi. C'est-à-dire, d'un seul coup, tu as une résurgence d'un truc comme ça, où le gars te dit, bah oui, on faisait ça, il ne sait plus pourquoi il le faisait, mais lui sait encore le faire. Et après, quand tu cherches, tu t'aperçois que ce n'est pas anodin, ce n'est pas des instruments anodins, quoi. Enfin, ça ne sert à rien d'autre, une rombe, tu vois. C'est pas, il ne chantait pas avec, ce n'était pas un instrument de musique, ça fait juste un bourdon, quoi, tu vois. Mais il y a une valeur protectrice, quoi, qui est chouette. Ça va partir.
Merci.
Eh bien, de rien.
À l'oreille des montagnes, carnet radiophonique des rencontres Pyrénées vivantes à Germes, chez Lily.
qu'il a faite alors ?
Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé de la faire le plus fidèlement possible que je pouvais par rapport aux photos. Peut-être qu'il faudrait que je demande au MUCEM si un jour je vais sur Marseille. Je pense qu'elle y est dans les collections. Je pense qu'ils l'ont.